Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïque à Strasbourg. Notre invité est Alexandre Delval. Il est politologue, auteur du livre Sur la mondialisation dangereuse. Bonjour Alexandre Delval.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre livre ?
Oui, alors la mondialisation dangereuse, c'est un livre que j'ai écrit avec l'ancien président de la Sorbonne, Jacques Sopelsam, qui est un grand géopolitologue, et nous avons voulu faire un manuel de géopolitique, donc c'est un manuel accessible à tout le monde, et avec 14 chapitres qui abordent tous les grands problèmes géopolitiques mondiaux, mais en filigrane, moi j'aime bien faire un manuel, mais en même temps il y a une idée comme un essai, en filigrane il y a cette idée d'analyser non pas une mondialisation forcément mauvaise, mais qu'est-ce qu'il y a, les revers, les côtés négatifs de la mondialisation qui n'est pas forcément heureuse, comme avait dit Alain Minc ou Fukuyama. En gros, on ne dit pas que la mondialisation est mauvaise, qu'elle doit disparaître. On constate qu'elle est de moins en moins en vogue, que les États se replient, qu'il y a un retour du nationalisme, du souverainisme et du protectionnisme, et aussi que ce désenchantement vis-à-vis de la mondialisation est le fruit du fait qu'elle a aussi de très mauvais côtés. Alors on parle des mafias, des virus, on parle des migrations, de l'islamisme radical. Alors, tout ce que la mondialisation heureuse et une absence des frontières permet.
Alors ce qui est intéressant dans votre livre qui a été écrit il y a déjà de cela quelques mois, c'est que finalement tout ce que vous avez écrit il y a maintenant pratiquement 2 ans, ça s'est plus ou moins produit.
Malheureusement, oui, on peut dire que depuis 2001, et je n'ai aucun talent de prophète, depuis 1997, quelles étaient mes deux thèses ? Mes deux thèses, c'est que l'islamisme radical, qu'il soit djihadiste ou purement intellectuel, donc coupeur de langue et coupeur de tête, qu'il soit violent ou pas violent, l'islamisme a un projet de conquête de notre société. On le voit avec l'attentat d'Al Jazeera aujourd'hui, enfin hier en Espagne. On voit bien que, comme en 2017 ou en 2004, à chaque fois ces attentats en Espagne sont commis par des gens qui disent qu'ils veulent récupérer l'Espagne musulmane. Donc c'était en fait un projet de conquête globale, et je me suis pas trompé, parce que depuis 1997, je disais que si on n'intégrait pas les musulmans en les obligeant ou en permettant à ceux qui sont progressistes de mettre en place un islam tolérant, un islam qui rompt avec tout ce qui dans la charia invite à la conquête, eh bien nous aurons un problème, c'est-à-dire une communauté de moins en moins intégrée avec l'effet de nombre, puisque les États d'origine ont une force de frappe énorme qui empêche l'intégration. Et donc je disais que si l'immigration n'est pas contrôlée, et si cette immigration non contrôlée est laissée dans les mains des islamistes avec la complicité de nos dirigeants, eh bien on aura de plus en plus de violences, de problèmes de non-intégration, violents ou pas, par le communautarisme irrédentiste ou par les attentats, et on aurait de plus en plus de fractures dans la société. On le voit, un attentat en Suède, un attentat en Allemagne, un attentat en Espagne, et quand c'est pas la France ou l'Angleterre, c'est régulier, et ça va. Et sans parler des attentats crapuleux de mécréants, de juifs ou d'athées ou de Charlie Hebdoïste ou de chrétiens pratiquants régulièrement égorgés, agressés, et sans parler de tous ceux qui ne rentrent pas dans la case terroriste. Mais à chaque fois, il y a quand même une dimension de haine du mécréant. C'est-à-dire que régulièrement, on tue un homme blanc ou un occidental sur sa terre, et une fois sur 10 seulement, on dit que c'est du terrorisme, et 9 fois sur 10, c'est un fou, c'est un malheureux, c'est quelqu'un qui était sous l'emprise du hashish. C'est ce que j'appelle le syndrome Sarah Halimi. D'ailleurs, vous savez que le grand rabbin Chaim Korsia, avec l'édition de mon ami David Reynarque, va sortir un livre qui va faire du bruit, avec 250 intellectuels, j'ai l'honneur d'en faire partie, qui vont faire le bilan de l'horreur de cet assassinat à la fois islamique et crapuleux de Sarah Halimi, et en plus avec une forte dimension islamique antisémite. Donc tous ces phénomènes, de plus en plus banalisés, et très souvent c'est des fous, c'est des gens qui n'ont pas leur raison, etc., ressemble de plus en plus aux pays musulmans. Dans les pays musulmans, quand un chrétien, un juif, un athée, un libre-penseur est tué par un islamiste, c'est presque tout le temps des fous. C'est jamais la faute de la charia.
Alexandre Laval, je voudrais qu'on revienne sur l'actualité présente avec évidemment le conflit en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, donner peut-être la genèse de ce conflit et c'est quoi le départ en fait ?
Ah bah ça m'intéresse votre question parce que je disais tout à l'heure que depuis 97, l'une de mes idées c'était ça, c'est ce danger islamiste. Alors c'est pas compliqué aujourd'hui de le dire, mais à l'époque on n'était pas très nombreux avec Antoine Sfer, Roland Jacquard, on était 3 ou 4. Ma deuxième grande thèse, et je les ai toujours mis ensemble, hein, dans tous mes livres on m'a dit parfois pourquoi vous mélangez des thèses très différentes, ma deuxième grande thèse qui est dans tous mes livres, y compris les livres sur l'islamisme, c'est qu'on se trompait d'ennemi, à laisser venir le loup dans la bergerie, a laissé à permettre les États islamistes de manipuler nos communautés musulmanes chez nous. On faisait rentrer l'ennemi à l'intérieur, et plutôt que de s'occuper de l'ennemi islamiste qui vraiment conquiert nos sociétés progressivement, démographiquement, intellectuellement, religieusement, ils occupent l'espace et ils tiennent la rue, et bien plutôt que de s'occuper de cet ennemi-là qu'on a utilisé contre l'Union soviétique, et bien on avait beaucoup trop concentré nos tirs, notamment l'extension de l'OTAN, vers la Russie, et je ne dis pas que la Russie a raison, attention, dans le conflit ukrainien, mais depuis les années 90, j'alerte sur le fait que l'OTAN ne devait pas devenir une machine de guerre contre la Russie qui s'étend et qui étend ses missiles, parce que l'OTAN, c'est pas des vendeurs de fleurs. Hein. Quand l'OTAN va vers l'Est, il y a des missiles, des antimissiles, et on savait, avec mon ami le général Gallois, grand gaulliste, grand stratège français qui a créé la force de frappe nucléaire française pour De Gaulle, il faut quand même savoir, parce que c'est pas n'importe quel stratège, qui m'avait préfacé mon premier livre en 97, et déjà, j'associais ces deux problèmes, je disais, on se trompe d'ennemi. C'est-à-dire que on prend la Russie comme un ennemi alors que le Qatar et nos amis saoudiens ont financé l'islamisme partout dans nos banlieues, sans parler de la Turquie qu'on voulait faire rentrer dans l'Union européenne. Mmh. Et je disais, attention, la Russie n'est plus un ennemi, c'était le cas dans les années 90, mais elle le redeviendra si nous l'encerclons de la Baltique jusqu'à la mer Noire, comme se vantent les stratèges américains, si l'OTAN s'étend régulièrement au détriment de l'ancien pacte de Varsovie, alors que la Russie a laissé tomber son pacte de Varsovie, l'OTAN en a profité pour aller toujours plus vers l'Est, en rompant l'accord qui avait été fait, qui avait la promesse faite à Gorbatchev et ensuite à Boris Eltsine. On a profité de la faiblesse de la Russie pour ne pas, certes c'était pas un accord officiel, mais c'était quand même un accord verbal et public, on avait promis ne pas aller plus loin que l'Est de l'Allemagne. Je ne dis pas que ça donne raison aux Russes, attention, hein. Ce que font les Russes est abject, horrible, ça viole le droit international, c'est du révisionnisme des frontières, c'est extrêmement dangereux, on peut pas le laisser faire, mais tout a été fait depuis 30 ans pour que l'OTAN provoque la Russie et pour que la Russie devienne effectivement un ennemi, alors qu'elle ne l'était pas. On aurait pu avoir à nos portes un pays un peu autoritaire, mais avec lequel on avait des bons rapports, si on respectait la chasse gardée. Et même, vous savez, même des pays qui ne sont pas autoritaires, comme l'Amérique, la démocratie américaine ne tolérerait jamais qu'à ses portes, le Canada ou le Mexique ouvrent des bases ou mettent des missiles et des antimissiles de la Chine ou de la Russie. Et je conclurai avec Kissinger, que nous citons abondamment dans le livre, l'homme de la guerre froide, Kissinger, mais également George Kennan, parce que dans ce livre, on cite beaucoup de grands auteurs, et pas des pro-russes. Hein. George Kennan, c'est l'homme qui a fait le containment, la fameuse thèse, la fameuse doctrine de l'endiguement de la Russie. Donc, il n'était pas du tout pro-russe. Qu'est-ce qu'on dit, ces deux grands? Il le dit toujours, Kissinger n'est pas mort, et George Kennan le disait jusqu'à sa mort à la fin des années 90, ces deux plus grands stratèges de la guerre froide, tous les deux ont écrit « La plus grande erreur de la politique américaine serait de favoriser l'extension de l'OTAN vers l'Est, qui va nous amener la guerre et qui va radicaliser le pouvoir russe en interne et le rendre dangereux en externe. » Donc, alors, ça ne justifie pas. Mais si vous voulez, tout a été fait pour que la Russie devienne hystérique. Alors, encore une fois, bien entendu, il faut bloquer la Russie, il faut l'empêcher de progresser vers l'Ouest, et il faut renforcer l'OTAN dans tous les pays de l'OTAN, mais moi, je ne dirai pas plus. Je ne suis pas sûr que cette guerre soit la guerre de la France, je ne suis pas sûr qu'il ne faille pas négocier, je ne suis pas sûr qu'il faille envoyer régulièrement toujours plus d'armes sophistiquées, des chars, et bientôt peut-être des avions, etc. Je pense que, tel qu'on en prend le chemin, nous allons vers une guerre OTAN-Russie. Et vous savez, quand des puissances nucléaires se font la guerre, on est quand même dans un danger maximal. Alors, faut pas être munichois, ça je comprends. Mais est-ce que ne pas être munichois, c'est la seule alternative? Est-ce qu'on est obligé de faire la guerre à la Russie? Est-ce que c'est raisonnable de faire la guerre à la Russie? Est-ce que c'est raisonnable de ne pas avoir appliqué les accords de Minsk, d'avoir laissé pendant 8 ans le régime de Kiev bombarder le Donbass, ce qui a complètement hystérisé les Russes? Vous savez que Mme Merkel, maintenant elle l'a avoué, ce n'est pas une thèse pro-russe. Mme Merkel a avoué il y a quelques semaines qu'effectivement, l'OTAN et les pays de l'Europe avaient fait semblant de croire aux accords de Minsk et que c'était juste pour gagner du temps, pour équiper les Ukrainiens, et qu'en fait ils n'avaient jamais vraiment voulu appliquer les accords de Minsk. D'ailleurs, on ne les a pas appliqués, et c'est ce qui a radicalisé la Russie, qui a été obligée de tomber dans le piège américain, d'envahir l'Ukraine, ce qui est absolument condamnable, mais c'est ce que veulent les Américains. J'ai retrouvé un rapport de la...
Alors justement, Alexandre Delval, c'est l'ambiguïté américaine. Beaucoup disent que derrière les Occidentaux, il y aurait les Américains. Vous êtes d'accord sur cette thèse?
Mais moi, c'est même pas une thèse. J'ai retrouvé un rapport de la Rand Corporation, très souvent mentionné par l'ancien responsable de l'Ukraine pour les services de renseignement suisse, Jacques Beau. Je le croyais pas trop, je pensais qu'il exagérait. J'ai retrouvé le rapport de la Rand Corporation. C'est une grande organisation think tank qui conseille le gouvernement américain, et en général, leurs conseils ont été pris à la lettre. C'est extrêmement important, la Rand Corporation, pour ceux qui savent. Et en 2019, un rapport de la Rand Corporation dit qu'il faut faire saigner la bête, donc ça s'appelle ça bloodletting, c'est la stratégie du bloodletting, et il faut embourber les Russes en Ukraine en les incitant, tenez-vous bien, à envahir plus de territoire en Ukraine. Ils appellent ça, et d'ailleurs le rapport s'appelle Extending Russia. Carrément, on appelle les Américains à faire tout pour que la Russie étende ses frontières vers l'Ukraine pour la faire entrer dans une guerre qui va les affaiblir, pour pouvoir s'occuper de la Chine plus facilement dans 10 ans, lorsque la Russie aura été durablement saignée, pas forcément détruite, mais saignée. Donc c'est une stratégie de guerre future Amérique-Chine qui passe par le fait d'affaiblir la Russie pour pas que la Chine ait un partenaire trop fort. Comment on affaiblit la Russie? Par le bourbier de l'Ukraine, comme on avait fait pendant la guerre froide avec le bourbier en Afghanistan, comme vous le savez, et le bourbier en Afghanistan, pour affaiblir l'armée rouge, a quand même consisté à armer Al-Qaïda. Donc ça veut dire que on joue avec le feu, et là c'est des puissances nucléaires. Donc je pense que cette stratégie américaine d'un cynisme extraordinaire n'excuse pas l'invasion russe, je le répète exprès, parce qu'il ne faut pas tomber dans le travers de certains souverainistes européens ou d'extrême gauche qui disent que Poutine a raison. Non, ce qu'il fait est fou. D'ailleurs, si c'était un agent de la CIA, il aurait fait la même chose, parce que ce rapport de la Rand Corporation, mais aussi, vous pouvez regarder une vidéo sur Internet d'un autre, le patron d'un autre think tank qu'on appelle l'ombre de la CIA, Stratfor, George Friedman, il exprime en 2015, donc encore plus tôt, une idée similaire. Il se vante que le chef de l'état-major de l'armée américaine est venu provoquer l'armée russe en décorant de médailles réservées aux Américains les officiers ukrainiens, et il dit on a voulu montrer aux Russes qu'on est chez nous et que l'Ukraine c'est l'Amérique. Et il le dit avec sourire, et il dit le but c'est de provoquer les Russes, de les affaiblir, et il dit ce que nous craignons le plus c'est pas la Chine ou l'islamisme radical, ce serait une Europe forte qui bénéficierait de l'énergie russe. Donc quand vous lisez les stratèges américains les plus faucons et les plus proches du pouvoir, ceux qui conseillent le pouvoir, c'est terrifiant de cynisme. Ça ne justifie pas la Russie. La Russie a tort. Elle doit être affaiblie en Ukraine, bien entendu. Mais est-ce que l'on doit céder à toutes les demandes de Zelensky? Moi, je pense qu'on doit envoyer les armes que nous, on a envie d'envoyer, et pas les armes que les Américains ou Zelensky veulent qu'on envoie. Alors, aider les Ukrainiens, oui, mais pas n'importe comment.
On va y arriver. On fait une pause musicale, Alexandre Delval, et on se retrouve tout de suite après, justement, pour parler de cette guerre et des solutions pour y sortir. À tout de suite.
Mes amis, allumons un beau feu. C'est l'hiver que le diable emporte. Mes amis, ce soir oublions-le. C'est l'hiver que le diable emporte. Mes amis.
Notre invité, Alexandre Delval, politologue, il est auteur du livre donc La mondialisation dangereuse. Alexandre Delval, on va venir évidemment à la deuxième partie. Alors, vous nous disiez avant la pause que selon vous, ce seront les États occidentaux qui devraient décider de l'envoi des forces et pas des demandes de Zelensky.
Je pense que beaucoup de peuples d'Europe de l'Ouest ne veulent pas qu'on envoie des armes, et même beaucoup de citoyens de l'Europe de l'Ouest ne sont pas persuadés que ce soit notre guerre. Je rappellerai quand même, pour ceux qui ont des visions uniquement moralistes, que les guerres, quand on s'en mêle, c'est parce qu'on a des accords et des alliances. Or, l'OTAN n'a pas l'Ukraine en son sein. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Mmh. L'Ukraine ne fait pas partie non plus de l'Union européenne, et l'Ukraine n'a pas d'accords bilatéraux de défense avec la France ou avec l'Allemagne. Mmh. Donc, normalement, rien ne nous oblige à être belligérants. Or, contrairement à ce qu'on nous dit, nous sommes en train d'être belligérants. Il faut savoir que sur les 100 ou 150 ou 180 000 Russes qui sont morts, beaucoup sont morts grâce à nous. Je dis grâce parce que beaucoup en Occident sont très heureux qu'on fasse la guerre, mais il ne faut pas croire que les Russes ne pas en tirer des conclusions. Ça veut dire que nous devenons, de facto, nous sommes les ennemis des Russes, alors que les Russes ne pensaient pas être notre ennemi. Les Russes étaient les ennemis des Ukrainiens, et j'ai de l'empathie pour les Ukrainiens, bien entendu, mais on apprend en stratégie que l'ennemi de l'un n'est pas l'ennemi de l'autre. Je rappellerai la phrase de monsieur... le discours de M. de Gaulle en 59 devant le Sénat français, qu'est-ce qu'il dit ? Si la France doit faire une guerre, cela doit être la sienne. C'est très important. Est-ce que c'est notre guerre ? C'est une question que posait Pascal Praud ce matin devant Régis Le Sommier. Je pense, et c'est aussi une question que pose Arnaud Klarsfeld, que j'ai trouvé très courageuse ces derniers temps, mais aussi Marek Alter, dont on a peu parlé. Marek Alter a eu des visions très critiques sur cette folie guerrière. Je pense qu'aujourd'hui, il nous faut des hommes de paix, comme Marek Alter, d'accord, comme le pape, qui essaient de trouver des voies de déconfliction, d'accord, parce que le problème de base, attendez, c'est important, le problème de base, c'est que les Russes du Donbass et de Crimée ne veulent pas, pour beaucoup, faire partie de l'Ukraine, et ils n'ont jamais vraiment voulu. Ils ont été mis dans ce pays de manière autoritaire en 1922 et en 1954, et à la fin de l'ex-Union soviétique, il n'y a pas eu de possibilité pour eux de choisir s'ils voulaient être ukrainiens ou russes, alors qu'ils sont, pour beaucoup, je parle de ceux du Donbass et de la Crimée, ils sont russes. Je ne dis pas que tous les russophones sont pro-russes, mais il y a des pro-russes en Ukraine qui ont toujours existé. On n'a jamais voulu tenir compte de leur opinion, et on les a laissés être bombardés depuis 2014 par Kiev. Je ne dis pas que la Russie a raison, encore une fois, mais c'est ça la racine du problème. Si on ne se met pas à la table, au moins sur qu'est-ce que serait le statut des Russes d'Ukraine dans une Ukraine post-guerre. Si on ne se met pas à la table pour parler de ce problème, il n'y aura aucune possibilité de négociation, et il y en a un qui va gagner sur l'autre, et ça peut terminer en guerre nucléaire. Pas une guerre nucléaire généralisée, mais j'ai peur que ceux qui en payent le prix, à un moment, les Ukrainiens vont se prendre une bombe tactique sur la tête. Pas nous, mais les Américains se contrefichent qu'il y ait un carnage, pas de 100 000, mais 1 million ou 2 millions ou 3 millions de morts en Ukraine. Ils sont prêts à payer ce prix, parce que c'est pas eux qui meurent.
Alors, Alexandre Delval, l'envoi des nouveaux chars dont on parle depuis quelques jours et quelques semaines, c'est une mauvaise idée ?
Alors, moi, je pense que l'envoi de chars Abrams, ce ne serait pas très grave si c'était qu'une trentaine, ou, admettons, 100, 200. Mais je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Si on décide d'envoyer des chars Abrams pour être plus offensif, même si on fait croire que c'est défensif, depuis quand un char était défensif ? Alors on nous dit qu'être défensif, c'est uniquement attaquer le sol ukrainien et pas la Russie. N'empêche que c'est offensif du point de vue ukrainien. Et qu'est-ce qui va, si on ordonne 100, ou 30, ou 100, ou 40, ou 180, qu'est-ce qui va faire qu'on n'en donnera pas 200 ? Et après, quand on aura donné 200, pourquoi on refuserait 300 ? Et quand on aura donné 300, Zelensky va nous dire, mais attendez, contre les 12 000 chars russes, il nous faut au moins 5 000 chars. Qu'est-ce qui va nous empêcher ensuite de passer de 300 à 1 000, à 1 200 et à 5 000 ? Donc vous voyez, ce qui est ennuyeux dans cette histoire, c'est qu'on ne voit pas jusqu'où ça va s'arrêter, alors que nos dirigeants soient clairs, qui nous disent qu'on est en guerre contre la Russie, qui nous disent que nous avons choisi d'être en guerre contre la Russie, alors que la Russie avait agressé, même pas la Pologne, aucun pays de l'OTAN. La Russie avait agressé, c'est vrai, l'Ukraine. Est-ce que les Européens veulent terminer en guerre généralisée, OTAN, Russie, pour défendre les Ukrainiens. Moi, je pense qu'on devrait demander l'avis du peuple, ou faire des votes au Parlement, ce qui n'a pas été fait.
Alors, il y a une situation compliquée pour Vladimir Poutine, évidemment. Comment peut-il s'en sortir et comment on peut sortir la situation, s'en sortir au niveau de la guerre? Est-ce qu'il y a, des propositions ou alors des idées?
Non.
Pour...
Aujourd'hui, les seuls qui ont des idées, c'était le gouvernement israélien avant Lapid, qui a tout gâché, et peut-être demain le gouvernement de Netanyahou qui est assez proche de Bennett vis-à-vis de la position de relative neutralité intelligente. Mmh. Il n'y a que donc Israël peut-être, et surtout la Turquie, ce qui est quand même le paradoxe, le grand impérialiste néo-ottoman et allié de l'extrême droite dans son pays, qui veut manger des îles grecques, qui occupe Chypre, qui bombarde les Kurdes en Syrie et en Irak, et qui massacre les Arméniens en armant les Azéris, c'est ce pays charmant qui aujourd'hui est devenu le seul pays où il y a des rencontres, où on discute un peu. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs de lever... Le veto sur l'exportation du blé ukrainien et russe par Odessa cet été. C'est quand même le comble que Erdogan, le dangereux Erdogan, soit devenu un homme de paix avec le pape. Il n'y a que le pape et Erdogan aujourd'hui qui appellent à de réelles négociations. C'est quand même incroyable.
Il n'y a aucune solution là.
On est munichois si on est contre. On nous dit qu'on est munichois si on est contre la guerre. Si on est pour la paix, on est traité de munichois. On est dans un corner total.
Il n'y a pas de solution à la fin de ce conflit dans les semaines
pour l'instant, je ne vois aucune autre solution que lorsque, et je pense que ça va arriver heureusement, c'est ma seule note d'espoir, quand les Américains en auront assez, parce qu'ils ne sont pas en économie de guerre 100%, ils redeviennent un peu une économie de guerre, mais c'est léger, alors que les Russes sont en économie de guerre. Hein. Les Russes produisent 24 heures sur 24 des chars, des missiles, et ils acquièrent des munitions. Ne croyons pas qu'ils n'ont plus de munitions. Ça, c'est du wishful thinking, c'est des souhaits européens. Mmh. La réalité, c'est que les Russes sont déterminés. L'opinion publique russe suit globalement Poutine, malgré les désertions. Mais vous savez, les désertions, on en a toujours vu dans toutes les guerres. Hein. En 14, il y avait des débandades aussi chez nous. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les Russes qui désertent et que c'est la preuve qu'ils vont être vaincus. Ils ont fait quelques percées. Ils vont mobiliser jusqu'à 1 million d'hommes d'ici quelques mois. Et l'effet de masse va quand même être très compliqué pour les Ukrainiens. Et donc, comme les Russes pensent qu'ils vont reprendre des territoires, ils n'ont pas de raison de négocier. Et comme les Ukrainiens pensent qu'ils vont de plus en plus être armés par les Européens qui font le boulot en fait des Américains. Pour les Américains, c'est fantastique. Ils vendent leur gaz de schiste ultra polluant très cher qui va ruiner nos industries. Mmh. Ils se font du blé sur leur gaz à la place du blé du gaz russe qui était beaucoup moins cher. Ils vendent énormément d'armes. Et il faut savoir que Kamala Harris est mariée, hein, la vice-présidente, avec un lobbyiste de Lockheed Martin, la grande boîte d'armement. Ils nous vendent des armes à tous les pays de l'OTAN, et il y a de nouveaux pays qui veulent adhérer à l'OTAN, et donc qui vont acheter des armes américaines. Et l'Allemagne a lâché la France pour la défense, et elle a fait cavalier seul pour, avec 14 pays, acheter encore plus d'armes américaines. Pour les Américains, c'est tout bénef. Mais par contre, est-ce que c'est l'intérêt de l'Europe de faire comme si la Russie n'existait pas ? De ne préparer aucun après-guerre, de ne même pas se mettre à table en se disant bah oui, on aurait dû appliquer Minsk, bah oui, pour l'instant on vous condamne, mais on vous promet que si jamais vous arrêtez la guerre, il y aura un statut de respect des minorités russes en Ukraine. C'est ça qu'il faudrait dire. Les Russes ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne seront pas vaincus. Et comme disait malheureusement un des dirigeants russes qui est souvent interrogé sur CNews et BFM, là, parce qu'il parle bien français, il disait, est-ce qu'une puissance nucléaire peut être vaincue. Elle peut se retirer d'un théâtre d'opération, comme les Américains du Vietnam ou d'Afghanistan ou d'Irak, mais est-ce qu'on peut vaincre ? Aujourd'hui, les Occidentaux veulent renverser Poutine. Ils le disent maintenant pratiquement partout. Mmh. Hein, et Monsieur le maire voulait détruire économiquement la Russie. Ils n'ont pas réussi. Est-ce qu'on peut totalement vaincre la Russie ? Est-ce que c'est la seule issue de la guerre que nous présentent certains ? Moi, ça me paraît être une issue dangereuse. Ah. Vous savez qu'aujourd'hui, celui qui veut détruire la Russie est obligé de passer par une guerre nucléaire.
Ah. Alexandre Level, un mot sur une personnalité qui est incontournable en ce moment. C'est Volodymyr Zelensky. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau chef ?
Alors, je pense à la fois du bien et du mal. Ah. La partie positive, il faut reconnaître, et là, c'est difficile de le nier, ce serait malhonnête, il est courageux. parce que même s'il est protégé par des forces spéciales américaines et la CIA depuis le début, qui l'ont empêché d'être assassiné à Kiev quand les Russes étaient pas loin, il est incontestablement un chef de guerre, un homme très courageux. Là, il est en train de purifier aussi la classe politique en mettant en prison des gens corrompus. C'est un homme qui est relativement lisible. Et surtout, il s'avère être un chef de guerre hors pair, et il a bluffé et surpris tout le monde, et là, ça ne peut que susciter le respect. Par contre, il met en prison des gens corrompus, mais lui-même a été corrompu puisqu'il est dans les Pandora Papers, il a détourné au moins 80 millions de dollars, et il est le disciple, vous savez, il a été mis au pouvoir à la télévision, et ensuite politiquement, par un grand oligarque, Kolomovsky, qui est recherché par la justice américaine pour avoir détourné 5 milliards d'une banque ukrainienne sur son compte personnel. Donc c'est pas non plus quelqu'un qui a toujours été monsieur propre. Zelensky est arrivé au pouvoir avec l'appui américain d'un côté et l'appui d'un oligarque totalement pourri, corrompu, qui lui-même a financé des milices. Et il faut savoir que Zelensky, bien qu'étant un orthodoxe d'origine juive, attention, c'est pas un juif, c'est un orthodoxe chrétien d'origine juive, ce qui est tout à fait différent, et vous le savez mieux que moi, vous êtes bien placé, bien qu'étant d'origine juive, il a toléré des milices nazies au sein de l'armée, parce qu'en fait, il n'a pas le choix. Et là, c'est pas pour le critiquer, c'est plutôt en sa faveur. J'allais dire, cet homme est prisonnier. Il est pris en otage par des forces extrêmement radicales. L'élite de l'armée ukrainienne est contrôlée par l'extrême droite ukrainienne qui adore, vous savez, le fameux Stefan Bandera, qui était le grand collaborateur de l'Allemagne nazie, qui a fait la fameuse Shoah par balle, qui est horrible. Vous savez que le père Dubois, ce prêtre chrétien qui est souvent en Ukraine, en a fait même des reportages, on s'est très documenté. Donc il y a eu la Shoah par balle. Aujourd'hui, Zelensky a très peur parce que ces nazis, qui sont pas nombreux au niveau de la population, mais qui sont, mais qui tiennent les légions les plus virulentes de l'armée ukrainienne. C'est une sorte de police politique. C'est la police de l'armée. Ils ont dit très clairement quand Zelensky était arrivé au pouvoir, nous vous buterons si vous faites la paix avec la Russie. Parce qu'il faut le rappeler, Zelensky est russophone, il n'est pas du tout ukrainophone, il parle mal ukrainien, et dès qu'il est arrivé au pouvoir, après avoir fait de la télévision, il avait dit qu'il voulait trouver un accord de paix avec la Russie, parce qu'il y avait déjà la guerre au Donbass. Oui. C'est l'extrême droite ukrainienne dont il est otage qui l'a menacé de mort, il a parfaitement compris le message, s'il veut rester au pouvoir, et il était quand même content d'arriver au pouvoir, il fallait qu'il change de politique, et de l'autre côté, il y a eu les pressions américaines, et de l'OTAN, et de la Pologne, qui l'ont encouragé à ne faire aucune concession. Et c'est pour ça qu'il n'a pas appliqué les accords de Minsk et qu'il a continué à bombarder les Russes de Donbass. Et on connaît la suite. Ça a radicalisé les Russes. Et les tendances les plus dangereuses en Russie ont pris le dessus sur les tendances faibles. Même Medvedev, qui était modéré, est devenu ultra-extrémiste. Et aujourd'hui, plus rien n'arrête ce parcours vers la radicalisation. En conclusion, j'invite nos auditeurs à lire l'article remarquable qu'a produit Pierre Lelouch dans la revue Le Dialogue, et qu'on retrouve aussi une version courte sur Le Monde, extrêmement intéressant, où il dit « attention ». Il reprend la formule de M. Guénaud, on marche vers la guerre comme des somnambules. Il dit attention, et c'est un grand stratège. Pierre Lelouch n'est pas un politicard de base, il est cofondateur de l'IFRI. Oui. Et il dit, donc c'est avant d'être politique, c'était un grand stratège, et il dit attention, oui, il y a un risque de débordement et de guerre généralisée. Et aujourd'hui, là aussi, c'est considéré presque douteux d'oser le dire. Non, il y a un véritable risque, même si sur les médias, on privilégie aujourd'hui des gens qui vont justifier le va-t-en-guérisme de Biden, de Macron et de Scholz et compagnie, il y a un vrai risque. Est-ce qu'on en est totalement conscient? Moi, je fais que poser la question. Ceci dit, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les Ukrainiens. Il faut les aider, mais de manière mesurée. Et il ne faut pas leur envoyer n'importe quelle arme, et il faut leur envoyer des armes qui sont compatibles avec nos armées, et il ne faut pas se délester. Si on donne les canons, on a 78 canons César, on en donnait 20. Est-ce qu'on peut se permettre, quand on a si peu de canons, d'en donner 20? On a très peu de chars, on a très peu d'avions. Est-ce qu'on va aussi délester nos propres stocks? Et je pense que ça, c'est assez problématique. Aujourd'hui, Zelensky a un tel degré de médiatisation que dans des pays qui sont gérés par les médias, parce qu'aujourd'hui, les démocraties sont gérées par les médias. Et derrière la média, il y a des grandes multinationales. D'accord. Le problème aujourd'hui, quand on est médiatique, on fait plier n'importe qui. Et aujourd'hui, pour être bien vu, pour avoir l'air d'être chef de guerre, d'être viril, d'être des gens courageux, tout le monde surfe sur l'Ukraine. Von der Leyen met le drapeau ukrainien sur ses vêtements. Et tout le monde, Biden a remonté dans les sondages un petit peu, parce qu'en Amérique, il y a un fort sentiment anti-russe.
Alors, Alexandre Delval, je suis désolé, mais on est vraiment hors temps. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. On rappelle votre livre, qui est sûrement encore en vente, les mondialisations dangereuses.
Et on est l'artilleur.
Voilà. Et on vous recevra peut-être une autre voix pour en parler encore plus longuement. Merci Alexandre Delval.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Bonne journée.